vos manettes. Quittez la vie réelle pour plonger dans un monde de pixels. Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo avec Loli sur Neptune FM.
Bien le bonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour cette nouvelle émission de Cordialement Geek. Cette semaine, je vais vous parler du jeu Elden Ring. On parlera ensuite des tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière. On aura une petite news concernant le jeu Star Wars Knights of the Old Republic, le remake. On aura ensuite une petite news technologie avec des baguettes électriques qui rendent le goût des aliments plus salés. Et on finira avec les sorties jeux vidéo de la semaine. On commence donc avec le test de Elden Ring. Donc c'est un jeu vidéo d'action RPG à la troisième personne en monde ouvert qui est jouable en solo. Il a été développé par From Software, édité par Bandai Namco Entertainment. Il est issu de la collaboration entre le créateur de jeux vidéo Hidetaka Miyazaki et l'écrivain George R.R. Martin, donc le créateur de Game of Thrones. Et donc le jeu a la musique composée par Yuka Kitamura, Shoei Miyazawa, Yoshimi Kudo, Taito Misawa et Tsukasa Saito. Elden Ring est sorti le 25 février 2022 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Windows. Le jeu est classé PEGI 16 et il obtient une note de 18 sur 20 de la part de jeuxvideo.com et de 9 sur 10 de la part de Gamekult. Donc Elden Ring, c'est une sorte d'aboutissement pour From Software et son président star Hidetaka Miyazaki. Après 4 volets de la série des Souls et 2 spin-offs, le studio japonais offre à la série qui l'a rendue célèbre une suite spirituelle ambitieuse, pour la première fois en monde ouvert. Un pari osé pour des jeux dont la renommée repose principalement sur leur level design tiré au cordeau. Avec le Cercle d'Éden, les joueurs n'auront plus à tourner en rond dans les couloirs de donjons tortueux, en tout cas plus seulement. Plus que jamais, Elden Ring renouvelle la recette du studio From Software avec l'arrivée d'un monde ouvert, une première pour la série des Souls. L'idée est simple, connecter tout ce qui a fait le charme de ces jeux au fil des années, avec une direction artistique Dark Fantasy très marquée, un gameplay exigeant sur la base d'un avatar hautement personnalisable, la construction des niveaux proches du diable en personne, donc tout ça par l'intermédiaire d'un immense terrain de jeu. C'est sans nul doute le projet le plus ambitieux de l'équipe japonaise, qui s'est même offert les services d'un certain George R.R. Martin, donc auteur de Game of Thrones, pour façonner le lore de son univers. Alors non, vous n'aurez pas à faire des magouilles politiques dans tous les sens, mais vous devrez devenir le nouveau maître de l'Entre-Terre, région déchirée par la soif de pouvoir de demi-dieux, appelée par le surpuissant Cercle d'Éden. En tant que sans-éclat, que vous allez pouvoir personnaliser avec un éditeur de personnages très complet et le choix entre une dizaine de classes de base, vous allez devoir gérer tout ce bazar, et ça ne sera pas simple. Mais avant cela, une longue route vous attend, au sens propre comme au figuré. En plus d'être une première pour la série des Souls, le monde ouvert d'Elden Ring, baptisé l'Entre-Terre, est tout simplement gigantesque. Je ne vous donnerai pas de chiffres précis ou de durée de vie pour garder l'effet de surprise, mais soyez-en sûrs, il y a largement de quoi faire. From Software met d'ailleurs tout en œuvre pour préserver le plaisir de la découverte. En début d'aventure, sur la map du monde, vous ne verrez qu'un minuscule recoin de l'entre-terre, et il n'est d'abord pas possible de dézoomer au maximum pour appréhender la taille de l'ensemble. Seule l'obtention de fragments de cartes dans l'open world permet d'y remédier et d'afficher les reliefs des régions. Ce n'est pas pour autant que votre chemin sera tout tracé. Contrairement à la plupart des jeux en monde ouvert, Elden Ring ne dispose d'aucun point d'intérêt pour guider le joueur dans son exploration, sauf dans les rares moments où un PNJ vous donne un point de rendez-vous. La lecture minutieuse des fragments de cartes est un premier moyen de s'orienter, mais ce sont essentiellement les repères visuels, directement dans l'entre-terre, qui vous amèneront vers tel ou tel endroit. À la manière de The Legend of Zelda Breath of the Wild, Elden Ring fait le choix d'un univers fantastique au relief très prononcé pour faire ressortir tout ce qui vaut le coup d'œil. Et le mieux, c'est que ça marche très bien. L'absence de points d'intérêt contribue au mystère constant de l'entre-terre et oblige le joueur à garder les yeux rivés sur ce qu'il se passe en jeu, donc face à lui. Bien sûr, From Software ne compte pas laisser sur le carreau celles et ceux qui ne seraient pas à l'aise avec la philosophie de son monde ouvert. Ainsi, sur certains sites de grâce, une traînée de lumière vous indiquera le chemin vers le prochain lieu majeur, une traînée qui est également visible sur la carte du monde. Aussi, si vous repérez un endroit qui vous fait de l'œil depuis cette map, il est possible d'y apposer un marqueur qui sera visible à l'horizon. Et si jamais vous vous posez la question, il n'y a pas de mini-carte ni d'escalade. En tout cas, il faut bien garder les yeux en face des trous. L'entre-terre regorge bien plus de secrets que ce que laisse présager la carte du monde. Sur le document, aucune mention des catacombes, galeries et tombes. Autant de petits donjons dans l'entrée se limitent souvent à une porte perdue dans un coin. Elden Ring donne ainsi souvent ce sentiment d'être un explorateur qui aurait découvert un lieu caché de tous. Un sentiment vraiment très agréable qui rajoute une couche de mystère et se mêle à l'incroyable direction artistique de From Software, qui prend une nouvelle dimension grâce au monde ouvert. Une fois encore, en dépit d'une technique loin d'être irréprochable, le studio livre des panoramas à couper le souffle qui n'attendent qu'à être explorés, le tout avec un level design solide, quoique un peu linéaire sur la fin de l'aventure. L'exploration dans Elden Ring est souple, avec des dégâts de chute revus à la baisse. Au-delà de voir du pays se perdre dans Elden Ring pour découvrir tout un tas d'endroits est presque la bonne manière de jouer. De nouveau, comme Breath of the Wild, il est possible de foncer dès les premiers instants dans les Legacy Dungeons, donc ces donjons souvent immenses, parfois obligatoires pour accéder à la suite du monde ouvert, représentatif de l'expérience traditionnelle des Souls. Méthode qui n'est bien évidemment pas très conseillée, vous vous en doutez. Donc avec sa construction bien plus libre, Elden Ring invite à papillonner dans l'open world pour se préparer aux boss principaux, qui représentent souvent un cap de difficulté important à dépasser. Vous bloquez sur une grosse créature, pas de souci, il vous reste toute une région à explorer. Le titre embarque en plus un système de téléportation très souple qui permet de voyager quasi instantanément et à volonté d'un site de grâce à l'autre. Donc si vous n'avez pas de temps à perdre, vous avez aussi le choix de vous obstiner sur les Legacy Dungeons. Tradition oblige, plus qu'un haut level, l'apprentissage des gestes ennemis reste avant tout la clé. Alors est-ce que cela rend Elden Ring plus facile que les autres jeux de From Software ? Oui et non. D'un côté, le joueur qui a écumé l'entre-terre avant de se rendre dans un donjon Legacy aura un avantage certain, mais qui ne sera pas déraisonnable non plus. Comme je le disais, certaines parties de l'open world sont verrouillées par un passage obligatoire. Il n'est en gros pas possible de faire un tour complet du monde, d'être très haut niveau, pour ensuite terminer, le plus simplement du monde, les donjons Legacy. De plus, même avec du temps passé dans les lieux annexes, les donjons principaux ne seront clairement pas une balade de santé et gardent toujours ce sentiment d'accomplissement si cher à la série et aux joueurs. Un sentiment ici peut-être un peu différent que d'habitude, dans la mesure où il repose aussi sur le modèle ennemi trop fort, escapade pour gagner en puissance, joie de revenir plus tard pour enfin lui coller une rouste, ce qui est déjà un accomplissement en soi. Ce genre de retour en arrière permet ainsi d'améliorer son personnage de bien des manières, donc celle de base, récolter de l'expérience à dépenser dans une dizaine de catégories pour personnaliser à volonté votre avatar et lui donner accès à de l'équipement plus avancé. Un système dans la plus pure tradition des Souls. Comme d'habitude, si vous succombez, le lieu de votre mort gardera l'XP durement gagné. Et si vous mourrez en tentant de les récupérer, cette expérience sera malheureusement perdue. Mais c'est en particulier la quête d'armes et de pouvoirs qui marqueront une avancée significative pour votre personnage. Et ça tombe bien car dans Elden Ring, chaque chose qui sort de l'ordinaire est dans 99% des cas synonyme d'une jolie récompense. Un excellent point. La curiosité du joueur est presque systématiquement valorisée. Seul petit bémol, ces lieux annexes recyclent souvent la même identité visuelle, avec parfois les mêmes boss. Rien de bien méchant, surtout au vu de la taille de la carte, mais Elden Ring a une marge de progression. Dans tous les cas, la plupart des combats restent épiques et très bien mis en scène. Voilà, on va pouvoir faire une petite pause dans ce test pour s'écouter la musique Grave Wardens composée par Yuka Kitamura, une musique extraite de l'OST du jeu Elden Ring, et on reviendra juste après.
Thank you.
triste et joyeux. Donc Grave Wardens de Yuka Kitamura, une musique extraite de l'OST du jeu Elden Ring. On passe maintenant à la suite de ce test. Donc après vous être bien équipé, il sera temps de vous attaquer au fameux donjon Legacy. Et qu'on se le dise, avec certains de ses donjons principaux, From Software touche du doigt l'aboutissement de sa vision du level design. En tout cas, pour les donjons Legacy obligatoires, les autres accusant un manque d'ambition notable en comparaison. Pour le reste, c'est un peu la version maxi best-of des levels classiques des Souls, plus grand et tortueux que jamais, renfermant mille et un secrets. Sans oublier qu'Elden Ring accueille une nouveauté très importante, un saut vertical façon Sekiro. De quoi monter sur les rambardes, bondir sur une corniche et rentrer par une fenêtre ouverte. Un vrai plaisir, surtout combiné à la dimension infiltration, elle aussi inédite, pouvant déboucher sur des situations vraiment agréables. Un plaisir qui demande toutefois des niveaux pensés pour, et quand ce n'est pas le cas et qu'on est hors de l'open world, on peut avoir le sentiment de seulement jouer à Dark Souls. Mine de rien, les donjons Legacy sont des environnements à part dans Elden Ring. Comme pour le reste des donjons, on ne peut pas y invoquer sa monture, et les effigies de Marika, des checkpoints flambant neufs en marge des sites de grâce, sont aux abonnés absents pour préserver l'expérience classique des Souls. Des statues qui sont placées un peu partout dans l'open world, souvent juste à côté d'un boss ou d'un camp rempli d'adversaires, histoire d'éviter de refaire un trajet en cas d'échec. Le joueur n'a, de plus, même pas besoin de les activer à la main, à l'inverse des sites de grâce. Un point qui illustre bien le numéro d'équilibriste dans lequel se lance From Software avec Elden Ring, concilier l'exigence réputée de ces jeux en les rendant plus accessibles et moins frustrants. Et le mieux dans tout cela, c'est que ça marche grâce à des choix inédits en combat que je vais donc aborder de suite. Plus qu'être plus accessible et moins frustrant, Elden Ring offre en fait de nouveaux choix stratégiques en combat pour venir à bout des monstres les plus coriaces. L'ajout qui vient de suite à l'esprit, ce sont justement les esprits, autrement appelés cendres d'invocation. Des êtres fantomatiques que le joueur pourra trouver au fur et à mesure de son aventure et qu'il est seulement possible d'invoquer dans des zones bien précises, le tout via une seule invocation à la fois et dans la limite d'une utilisation par partie, donc partie entre guillemets, hein, avant de trouver la mort et de revenir à la vie, donc partie. Une aide parfois clairement bienvenue, pratique pour détourner l'attention d'un adversaire un peu trop rapide ou faire office de soutien, à distance ou bien au corps à corps. Mais une aide loin de rendre les combats trop simples. Les esprits ne sont pas des surhommes, leur barre de vie s'épuise très rapidement et il faudra bien prévoir son coup pour mettre à profit la fenêtre stratégique créée par leur invocation. Sachez que ces créatures demandent un coût de points de magie de plus en plus élevé, proportionnel à leur puissance, et que vous ne pourrez pas faire appel à leur service dans une partie multijoueur en ligne. Et donc, est-ce qu'on peut parcourir le monde ouvert d'Elden Ring à plusieurs? Eh bien, oui et non. Dans les faits, invoquer un allié a pour objectif de battre le boss de la zone, mais il reste toutefois possible de se balader dans le monde ouvert. En fait, ce qui rend cette dimension compliquée, c'est le fait qu'en multijoueur, le joueur ne peut pas invoquer sa monture, ni utiliser les points de téléportation. Autrement dit, c'est plus ou moins possible, mais ce n'est pas véritablement fait pour cela. Pour toutes ces nouveautés, Elden Ring fait preuve d'un équilibre plutôt exemplaire entre bénéfices et risques. Les esprits sont pratiques, mais ils demandent quelques instants pour être invoqués. Les combats à dos de monture offrent certes des moyens de se déplacer rapidement et de sauter, mais ils limitent l'utilisation des armes aux attaques légères et lourdes. Dans ce dernier cas, vous devrez souvent bondir de votre destrier pour assiner un coup sauté et repartir de plus belle, ce qui n'est clairement pas évident face aux grosses bestioles comme les dragons. Le coup sauté est d'ailleurs une nouveauté qui ne se limite dorénavant plus aux chutes et qu'il est possible de réaliser à pied. Elden Ring a encore bien d'autres choses dans sa manche, comme les cendres de guerre, nouveaux pouvoirs qui peuvent être appliqués sur chaque arme, en marge des compétences de celle-ci. Il y a également des contre-attaques à déclencher juste après une garde réussie, le fait de crafter des objets pour mettre à profit les ressources du monde ouvert, ou encore la possibilité de répartir à l'envi sa fiole de larmes, un objet qui se remplit à chaque mort pour plutôt recharger sa vie ou sa magie. Le tout avec en plus la très bonne base, ainsi que tous les systèmes de la série, et un éventail d'armes et de pouvoirs plus grand que jamais, un véritable aboutissement. Donc pour résumer les points forts du jeu, on a un open world tout simplement énorme, une direction artistique très réussie, la curiosité qui est vraiment récompensée, un jeu à la fois accessible et impitoyable, un sentiment d'aventure constant, des phases toujours épiques et intenses, un gameplay étoffé et toujours au top, et un aboutissement pour la formule. Pour les points faibles, on a parfois l'impression de juste jouer à Dark Souls. les donjons Legacy qui ne sont pas tous aussi réussis et le recyclage de boss qui est un peu gênant. Avec sa nouvelle dimension en monde ouvert, Elden Ring étoffe avec brio la formule déjà très efficace du studio From Software et offre aux Souls une suite spirituelle à la fois ambitieuse et accessible. Toutes les nouveautés convergent vers ce dernier objectif. Le monde ouvert permet de s'armer plus que jamais aux combats épiques et obligatoires que réserve l'aventure, sans pour autant avoir l'impression de se balader juste pour farmer. Et le mieux dans tout ça, c'est que ça ne compromet pas le sentiment d'accomplissement si important pour le genre. Elden Ring est une expérience complète, mystérieuse, où la curiosité est inlassablement renouvelée par le sentiment de découvrir quelque chose pour la première fois. Le tout avec une direction artistique somptueuse qui donne envie de se perdre et d'explorer. Le titre accueille en plus des nouveautés qui viennent offrir des choix stratégiques en combat, sans trahir leur exigence. On regrettera juste un léger manque d'ambition pour certains donjons Legacy, ainsi que le recyclage de quelques assets et boss. Au global, on a donc un titre d'exception. On va donc finir ce test avec une autre musique extraite de l'OST du jeu Elden Ring, c'est Earthtree Knights de Tai Tomisawa, et on reviendra juste après. Donc c'était la musique Earthtree Knights de Tai Tomisawa, une musique extraite de l'OST du jeu Elden Ring. On va faire une petite pause publicité et on viendra juste après pour les tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière, une news jeux vidéo, une news technologie, et on finira avec les sorties jeux vidéo de la semaine. À tout à l'heure.
À vos manettes, quittez la vie réelle pour plonger dans un monde de pixels. Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo avec Loli sur Neptune FM.
Rebonsoir, re-bienvenue sur Neptune FM pour la deuxième partie de l'émission Cordialement Geek. On va tout de suite commencer avec les tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière. Donc le top 5 qui fait aussi top Nintendo Switch. On a en 5ème place FIFA 22 sur PS4, un jeu d'Electronic Arts. En 4ème place c'est Kirby et le monde oublié sur Nintendo Switch, un jeu de Nintendo. En 3ème place on a Légende Pokémon Arceus sur Nintendo Switch, un jeu de Nintendo. En deuxième place, c'est Mario Kart 8 Deluxe sur Nintendo Switch, un jeu de Nintendo. Et en première place, c'est Horizon Forbidden West sur PS5, un jeu de Sony. Donc le top 3 pour la PS5, on a en troisième place Spider-Man Miles Morales. En deuxième place, c'est Gran Turismo 7. Et en première place, Horizon Forbidden West. Pour le top 3 Xbox Series, on a en troisième place Lego Star Wars, la saga Skywalker. En deuxième place, c'est Elden Ring. Et en première place, c'est MotoGP 22, l'édition Day One. Pour la PS4, on a en troisième place Lego Star Wars, la saga Skywalker. En deuxième place, c'est Gran Turismo 7. Et en première place, c'est FIFA 22. Le top 3 pour la Xbox One, on a en troisième place GTA V, l'édition Premium. En deuxième place, Cyberpunk 2077. Et en première place, c'est FIFA 22. Le top 3 pour la Nintendo 3DS, on a en troisième place Fire Emblem Warriors. En deuxième place, c'est Animal Crossing New Leaf Welcome Amiibo Select. Et en première place, c'est le même jeu, mais avec la carte Amiibo en plus. Le dernier top, c'est le top 3 PC, avec en troisième place Elden Ring, la Launch Edition. En deuxième place, c'est Farming Simulator 22. Et en première place, les Sims 4, l'édition standard. On passe maintenant à la news jeux vidéo. Un insider réputé pour ses informations sur la saga Star Wars en jeux vidéo semble avoir donné un indice sur la fenêtre de sortie de Star Wars Knights of the Old Republic Remake. Donc Star Wars Knights of the Old Republic Remake a été officialisé en septembre dernier. On n'a pas encore de date de sortie officielle, mais l'insider account NGT semble en savoir un peu plus. Développé par Aspyr Media et édité par Lucasfilm Games et Sony Interactive Entertainment, Star Wars Knights of the Old Republic Remake s'annonce comme une révision complète du célèbre RPG de BioWare. Malheureusement, depuis son annonce, on avait peu d'informations sur le titre et sa sortie. L'insider account NGT, connu pour ses informations internes au projet Star Wars, estime de son côté que le jeu pourrait sortir dès l'an prochain. Dans un fil de tweet du compte Okami Games parlant des prochains jeux Star Wars prévus et précisant KOTOR, donc Knight of the Old Republic, ça va plus vite. Donc KOTOR va être génial et j'espère qu'il ne faudra pas 10 ans pour le sortir. Account NGT donc a répondu à ce tweet avec, en disant donc « Espérons l'an prochain ». Nombreux sont les fans à avoir déduit que Account NGT avait des informations sur le projet, laissant penser que donc ce jeu pourrait sortir dès 2023. Cela signifierait donc que l'insider a des sources lui disant que le projet est déjà assez avancé dans son développement pour pouvoir sortir l'année prochaine. Le tweet de Account NGT est pris très au sérieux par certains parce qu'il a l'habitude de dévoiler des informations sur les jeux Star Wars en avance. Il avait par exemple été le premier à parler de Star Wars Eclipse, le jeu de Quantic Dream, avant son annonce. Très récemment, c'est lui qui avait révélé les jeux Star Wars qui rejoignent GeForce Now ce mois-ci. Donc pour rappel, Star Wars Knights of the Old Republic Remake sera un RPG qui vous laissera un grand choix, tant du côté clair que du côté obscur de la Force. Donc pour le pitch du jeu original, donc choisis ton chemin, nous sommes 4000 ans avant l'Empire Galactique et des centaines de chevaliers Jedi sont tombés au combat contre les impitoyables Sith. Vous êtes le dernier espoir de l'Ordre Jedi. Pourrez-vous maîtriser l'incroyable puissance de la Force pour votre quête et sauver la République? Où allez-vous être attiré par le côté obscur? Bien ou mal, de votre choix dépend le sort de la galaxie tout entière. Voilà, donc d'après Account NGT, Star Wars Knights of the Old Republic Remake devrait donc sortir sur PC et PlayStation 5 en 2023. On passe maintenant à la news technologie. Avec un problème de surpoids et d'obésité de plus en plus croissant à travers le monde, nombreux sont ceux qui ont choisi les nouvelles technologies pour lutter contre ce fléau. C'est le cas de ces scientifiques japonais qui ont inventé des baguettes électriques qui accentuent le goût salin des aliments. Donc un excès de consommation de sel peut être problématique pour la santé. En plus d'être lié au surpoids et à l'obésité, il est également lié aux maladies cardiovasculaires et à l'hypertension artérielle. Face à ce problème, une équipe de chercheurs japonais a eu l'idée de créer une baguette électrique qui rehausse le goût salé des aliments sans avoir à rajouter de sel. Les baguettes sont notamment reliées à un petit appareil informatique attaché à la main du mangeur et elles utilisent des stimulations électriques pour réduire la consommation de sel. Donc plus précisément, pour créer une sensation de salinité, Les baguettes émettent un courant électrique très faible qui transmet les ions de sodium des aliments à travers les baguettes, puis dans la bouche des utilisateurs. Notons que ce gadget ingénieux a été développé par Omei Miyashita, professeur à l'université Meiji de Tokyo, en collaboration avec le fabricant d'aliments et de boissons japonais Kirin. Pour l'instant, il ne s'agit que d'un prototype, mais l'équipe a déclaré que des améliorations seront apportées et que les baguettes devraient être mises à la disposition des consommateurs dès l'année prochaine, donc selon ce qu'a déclaré Kirin dans un communiqué. Donc si l'utilisation des baguettes n'est pas très courante dans les pays occidentaux, ces ustensiles pourraient trouver un public réceptif au Japon, où le régime alimentaire traditionnel a tendance à être quand même pas mal riche en sel. Voilà, on va maintenant finir l'émission avec les sorties jeux vidéo de la semaine. Donc on aura des sorties pour mardi 10 mai avec Salt and Sacrifice, qui sortira sur PC, PS5 et PS4, Eiyuden Chronicle Rising sur PC, PS5 et Xbox Series, This War of Mine Final Cut, qui sortira sur PC et Xbox Series, Songs of Conquest, qui sortira sur PC, et We Were Here Forever, qui sortira donc sur PC, PS5 et Xbox Series. La dernière sortie de la semaine, ça sera pour jeudi 12 mai avec Cantata, qui sera donc disponible sur PC, PS4 et Xbox One.
Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo sur Neptune FM.
Donc voilà, c'est ce qui termine l'émission de Cordialement Geek de cette semaine. Je rappelle que vous pouvez me retrouver sur Facebook pour l'émission Cordialement Geek, mais aussi pour notre émission Asian Bubble, que vous pourrez retrouver lundi prochain de 21h à 22h comme d'habitude sur Neptune. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et à tchè fête.
Retrouvez Cordialement Geek chaque vendredi à 18h30 avec Loli sur Neptune FM. À retrouver en podcast sur neptunefm.com.